2021, une année radiophonique. 100 ans de la radio, 40 ans de liberté des ondes, 20 ans de la Fédération des radios associatives de Gironde. Alors rendez-vous samedi 13 février sur notre antenne pour la Journée mondiale de la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la radio en partenariat avec l'UNESCO. À cette occasion et à l'initiative de la FEDERA, Fédération des radios associatives de Gironde, de la FRANA, Fédération des radios associatives de la Nouvelle-Aquitaine, 9 radios associatives se sont unies pour vous proposer un programme commun diffusé simultanément et ce jusqu'à 17h30 sur La Clé des Ondes à Bordeaux, Mélodie FM à Libourne, Radio Campus Bordeaux à Talence, Acquis FM à Saint-Germain-d'Esteuil, Radio Entre-deux-Mers à Sauveterre-de-Guyenne, RCF à Bordeaux, O2 Radio à Senon, Plage FM à Andernos et Radio Iguanodon Gironde à Blanquefort. Durant ces 2h30, nous allons évoquer la radio, son histoire, sa présence auprès de tous depuis bientôt 100 ans, sa capacité à s'adapter aussi bien en temps de crise que de bouleversements technologiques et à se renouveler en inventant de nouveaux usages pour pouvoir rester proche de vous. Vous y croiserez des passionnés, des gens de radio, des universitaires, des comédiens et des artistes, des militants associatifs et même un paysan boulanger animateur sauvé des eaux, tous unis pour évoquer avec vous leur amour de la radio. Et à tout seigneur, tout honneur, on retrouve sur cette émission spéciale, sur l'antenne de nos 9 radios, Emmanuel Labeyce, qui est le chef d'antenne de RCF Bordeaux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
RCF, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, comment on pourrait décrire votre station, votre fréquence en deux mots ?
Bah, le sigle déjà dit pas mal, RCF, radio chrétienne, francophone, on a des fréquences en France et en Belgique et un peu partout. En France, on est un réseau de 64 radios chrétiennes, c'est une radio généraliste qui porte un regard chrétien sur le monde, et chrétien c'est catholique, protestant, orthodoxe, tous ensemble.
D'accord, c'est vaste donc. Vous avez choisi de participer à cette journée spéciale et c'est le thème du podcast en tant que potentiel futur de la radio qui vous a inspiré et vous nous proposez de découvrir le travail d'une documentariste sonore, Mélisse Détry. Comment vous avez croisé son chemin ? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir justement sa pratique pour illustrer ce sujet ?
Parce que j'ai eu l'occasion d'entendre un reportage qu'elle avait fait à l'occasion d'un projet artistique qu'on avait mené, enfin auquel on avait participé ensemble à Libourne, un projet un peu au long cours. Elle avait fait un reportage sonore et j'avais beaucoup aimé son travail où, par le son, elle retransmettait autant des ambiances comme le son sait le faire, mais aussi ça mélangeait à quelque chose, donc quelque chose de très évocateur avec le son et aussi quelque chose de très informatif. Et je me disais, c'est assez original sa manière de faire entre journalisme et évasion sonore. Et pour m'être ensuite intéressé davantage à son travail, j'ai retrouvé ça dans plusieurs de ses documentaires ou reportages. Elle sait pas encore très bien comment les définir elle-même. Et donc c'est ce regard original qui m'a donné envie de l'interroger sur le podcast est-il l'avenir de la radio ?
Et on va le découvrir à l'instant même, ce regard original, dans ce sujet réalisé par RCF Bordeaux.
Vous écoutez RCF à Bordeaux sur 88.9 et 94.6 sur le bassin d'Arcachon.
Du coup, moi, mon plus vieux souvenir de manif, bah, j'étais tout seul. J'errais dans les rues de Bourg-en-Bresse avec mon vélo, à la recherche d'une occupation dans cette petite ville bourgeoise où je m'ennuyais sévère. Et un jour a surgi devant moi une foule de jeunes, énormes, qui avaient l'air très déterminés. Ça bougeait, ça hurlait, c'était super impressionnant. On était en 94, j'avais 12 ans, enfin il se passait quelque chose dans ma vie.
Ce documentaire disponible en podcast sur Arte Radio a été un véritable coup de cœur pour vous quand vous l'avez entendu. Maïlys Détry, bonjour. Vous êtes documentariste sonore. Vous créez vos propres podcasts. Celui-ci est signé Olivier Minot. Il date de 2016. Il s'appelle « La Révolution ne sera pas podcastée ». Qu'est-ce que vous lui trouvez de remarquable ?
Alors, j'adore le travail d'Olivier Minot. Bonjour à tous d'abord. J'adore le travail d'Olivier Minot sur ce documentaire parce que pour moi, c'est du travail d'orfèvre, de montage en fait. C'est finement ciselé, etc. Et si quelqu'un se demande comment le montage se passe, ben là, je pense qu'on a une belle leçon parce qu'il arrive à mêler du discours au jeu, de la prise de son en réel et à faire un retour sur tout ça. Et c'est parfait, quoi. Enfin, il n'y a pas de défaut pour moi. Voilà.
Donc, d'ailleurs,
il a été
montage.
Primé. Ouais, ouais, ouais.
Le podcast, comment est-ce que vous l'avez rencontré ?
Alors, le podcast, en fait, en 2013-14, j'ai une amie qui habitait à Brighton qui m'a dit « Ah, mais toi qui fais de la radio, je ne comprends pas pourquoi le podcast en France n'existe pas. » Ou en tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Et elle m'avait envoyé des articles de journaux anglais qui expliquaient comment monter sa chaîne de podcast, mais avec des outils anglophones. Et moi, je lui ai dit, mais en France, en fait, il n'y a pas pour l'instant ça. On peut réécouter les émissions de radio. Ça ne s'appelle pas comme ça. En tout cas, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Et donc, je l'ai découvert un peu comme ça. Elle m'a fait passer des fichiers d'émissions audio en anglais. Et donc, je découvrais ça. Et elle me disait, mais en Angleterre, ça existe depuis 10 ans déjà. Il y a des stars même qui ont leur podcast. J'ai découvert qu'aux États-Unis aussi. Et j'ai attendu en me disant, mais en France, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Et puis, je ne trouvais pas les moyens de le faire par moi-même. Alors, il y avait SoundCloud, qui est toujours là, qui est un outil pour poster ses sons en ligne. Mais il n'y avait pas ce mot qui permettait de dire audio à la demande, en fait.
C'est ça que ça veut dire, podcast ?
Pour moi, c'est ça. C'est un moyen d'écouter de l'audio à la demande. Donc, c'est soit un programme radio qu'on écoute après coup, soit ce qu'on appelle le podcast natif, donc qui n'est écoutable que sur Internet, en gros, ou via des applications smartphone, mais qui, en fait, a des formes multiples et plurielles, quoi.
C'est une manière de pouvoir réécouter du son. Ça ne dit pas grand-chose, ce mot podcast, du contenu même de ce qu'on écoute.
Non, moi, je trouve que ça ne dit pas grand-chose parce qu'aujourd'hui, dans le podcast, il y a des entretiens, des interviews, de la fiction, du reportage, de la création sonore. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent le contenir, en fait.
Ça a commencé avant la France, au moins en Angleterre. Il y a un engouement maintenant public assez fort pour ce genre de proposition audio. En quoi, selon vous, Maïlys Détry, un podcast est différent d'une émission ou d'un documentaire radio ?
Alors, c'est une question assez vaste. Pour moi, le gros truc du podcast, donc quand ce n'est pas une émission de radio, on va dire quand c'est du podcast natif, ce qui change, c'est le format et la durée, c'est-à-dire que c'est totalement libre. On peut être à 26 minutes 49 secondes comme 2 minutes 35. En fait, il y a une énorme liberté de format puisque l'auditeur clique et il prend le temps qu'il veut et l'émission peut être montée, recoupée comme elle veut, ce qui diffère d'un format radio puisque il y a des cases qu'il faut remplir avec des top horaires. Je vous apprendrai rien.
Une grille des programmes, voilà. Avec telle émission à telle heure, et c'est la même chose tous les jours ou toutes les semaines. C'est ce qu'on appelle la radio en linéaire, donc des programmes à heure fixe. La radio, elle va se faire dévorer, selon vous, par les podcasts ?
Alors non, moi je pense pas. Je pense que l'auditeur va de plus en plus aller vers le format podcast, dans le sens réécouter la radio après. Après, moi, je pense que le flux direct ne va pas s'éteindre comme ça, parce que il y a encore des tonnes de gens dans leur voiture qui allument le poste de manière automatique sur leur radio préférée, qu'on a besoin aussi du direct parfois pour être dans le moment où il se vit. Même si on le réécoute après, on peut le revivre pareil, mais c'est différent. Donc non, je pense pas que le podcast va manger la radio. Je pense qu'il y aura toujours les deux. Enfin, en tout cas, je l'espère. Parce que moi, j'aime ce moment du direct, en fait.
La force de la radio, c'est de pouvoir retransmettre le direct en temps réel.
Oui, et puis d'avoir l'impression de vibrer avec le monde à ce moment-là, en fait, d'être dans l'histoire à ce moment-là. Et il s'en passe parfois des choses à la radio inattendues.
Il y a des plateformes maintenant de podcasts audio, comme il existe des plateformes de séries pour les vidéos. Ces plateformes audio, elles sont de plus en plus nombreuses. Certaines ont une ligne éditoriale identifiable, d'autres sont plus commerciales, à tel point que certains les surnomment des podcasts industriels. Ce serait quoi, Maëlys Détry, en podcast industriel ?
Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas se faire un ennemi là-dedans. Donc, pour moi, il n'y a pas le grand méchant podcast industriel et les... gentil programme underground. Le podcast industriel aujourd'hui, cette expression, elle est portée par certains collectifs qui essayent de se battre pour le travail d'auteur. C'est juste pour eux et pour beaucoup des producteurs de podcasts qui font pas mal de programmes à la chaîne, qui travaillent aussi pour des marques. Donc des podcasts qui sont sponsorisés par des marques et qui soutiennent un certain type de programme. Je pense par exemple à Givenchy qui a fait produire un podcast sur le nez, les odeurs, etc. Donc il y a aussi ce travail-là qui est en lien avec des clients, des marques réelles qui cherchent à avoir des objectifs marketing et qui essayent de toucher par l'audio. Donc on peut dire que c'est ça. Est-ce que ça s'oppose à un travail d'auteur ? J'irai pas jusque-là, ça dépend des cas en fait.
J'ai toujours aimé explorer ce que personne explore, et puis dans un monde comme la France où tout a été finalement beaucoup exploré, il y a des réflexions un peu de partout, on fait plein de choses, je me disais mais qu'est-ce qui n'a pas été pensé ? Et c'est cette réflexion-là qui m'a fait prendre conscience que la mort était le seul domaine où on n'avait rien fait. Et je me disais mais c'est là où il faut que j'agisse.
On vous en entendra. Un court extrait d'une de vos productions, Maëlys Détry, le renouveau des pompes funèbres à Bordeaux. On entendait la voix d'Eddy Leza-Gallet, psychanalyste et créatrice de Cyprès, une coopérative funéraire qui propose une autre manière de vivre la mort d'un proche. On parlait de podcast industriel. Comment est-ce que vous qualifieriez les vôtres ?
Alors celui-là, je l'ai vendu à un site qui s'appelle Les Déviations, donc qui est un producteur de podcasts, mais aussi de vidéos et d'écrits, qui a pour prisme, ou en tout cas pour axe principal, le changement. Donc je leur ai proposé de parler des changements dans certains métiers, plus que des changements de vie de personnes. Ce travail-là, pour moi, certains le qualifieront de reportage, ce qui n'est pas faux. Moi, je le vois aussi comme un documentaire, même s'il peut avoir des aspects de pris sur le vif, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est de passer du temps, en fait, avec les gens qu'on interviewe, avec les gens dont on essaye de tirer la substance ou l'histoire. Là, on a entendu un extrait où on est en entretien face à face, qui est une partie. Il y a aussi des extraits pris dans le réel de familles qui viennent préparer les enterrements des défunts. Donc, quand ça mélange les deux, pour moi, en fait, c'est un programme sonore, un documentaire, je ne sais pas, parce que certains diront que non, vu qu'il n'a pas été forcément écrit sur des mois. Mais pour moi, on est à la frontière entre journalisme et documentaire, c'est le temps pris avec les gens. Ça ne peut pas se faire en 3-4 heures sur place de trouver une famille qui dit « oui, ok, je veux bien que vous enregistriez pendant que je prépare l'enterrement de ma mère ». C'est aussi la sensibilité des sujets qui amène ça. C'est du temps.
Et du coup, il vous arrive parfois de contacter plusieurs personnes et finalement de ne pas les garder au montage parce que eh bien, ça ne correspond peut-être pas à ce que vous voulez faire entendre à vos auditeurs.
Alors, c'est rare, mais là, il se trouve que dans ce travail-là, ce reportage documentaire, comme vous voudrez l'appeler, je l'ai tourné sur 3 semaines en petit bout par petit bout, selon les opportunités, pour me laisser le temps de trouver les bons interlocuteurs. Et donc, y a une famille, par exemple, qui m'a autorisée à aller enregistrer les funérailles. Et c'était une famille qui souhaitait des funérailles, malgré tout, à l'église, parce que Eddy Leza, elle donne une réponse à ceux qui ne veulent pas de l'église et qui veulent des cérémonies laïques, mais elle accepte aussi d'organiser pour ceux qui veulent l'église. Et donc, j'ai été à cet enterrement. D'ailleurs, c'est extrêmement étrange d'aller à l'enterrement de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour enregistrer. Et finalement, donc, la famille m'a demandé les rushs, les enregistrements. Mais je n'ai pas gardé la cérémonie parce que ça ne collait pas au sujet ou en tout cas, ça ne parlait pas assez. Et puis, je trouvais que c'était pas pertinent sur le montage. Par contre, j'ai rappelé la mère de la défunte pour en discuter avec elle. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, bien sûr, mais qu'elle souhaitait récupérer. Donc pour eux aussi, c'est C'est un reste, c'est un souvenir de ce moment-là où finalement, je suis contente d'avoir pu les accompagner comme ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Oui. Dans le montage, vous parlez de montage, Maëlys Détry, la manière dont vous agencez tous vos sons bruts récoltés sur le terrain, c'est ça qu'on appelle le montage. Qu'est-ce que vous privilégiez ?
Le sensible. En fait, voilà, j'ai fait... moi, j'ai été journaliste, j'ai été assistante de production, j'ai fait de la radio, du flash info. Ce que m'a appris, ce que m'ont appris mes deux formations en film documentaire et en documentaire audio, puisque j'ai fait les deux quand même pour me faire au métier, me faire la main, transformer aussi cette fonction de journaliste, c'est le sensible. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du « pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous faites là ?» Parfois, c'est laisser du silence pour laisser autant à la personne de trouver les mots ou de dire quelque chose en plus qu'elle ne dirait pas si on enchaînait sur une autre question. Donc, c'est ça, en fait. C'est le côté sensible. Je peux peut-être raconter une anecdote qui est plutôt sur du film documentaire, mais pour moi, en audio, ça aurait été pareil. Je mettais absolument dans mon montage au départ des bah voilà, on est ci, on est ça, on fait comme ci, on fait comme ça, on est vieux. C'était sur des personnes âgées qui voulaient créer un collectif et vivre ensemble. Et en fait, à un moment donné, il y a une des grand-mères qui a le bras dans une attelle et elle soulève un gâteau. Elle dit oulala, je sais pas si je vais y arriver. Et moi, je l'avais pas gardé. Et la monteuse avec qui je travaillais et qui me formait m'a dit. Mais non, mais là, en fait, ça dit exactement ce que tu lui fais dire à la voix, mais sans qu'elle ait besoin de le dire. C'est quoi être vieux ? Bah, c'est ne plus être capable de porter, avoir peur de le faire tout seul, avoir besoin des autres, comment vieillir ensemble. Et c'est ça dont parle ton documentaire. Et ça a été une révélation pour moi de passer vraiment de la question du fait, du constat, au sensible.
Où est-ce qu'on peut entendre vos productions ?
Donc en ce moment c'est beaucoup sur le site des Déviations parce que j'arrive à leur vendre beaucoup de sujets en ce moment, enfin ou beaucoup d'histoires parce que j'aime pas tellement le mot sujet, beaucoup d'histoires des personnages qui les intéressent et auxquels ils sont sensibles. Après plus tard j'espère ailleurs. Moi je me sens encore très bébé hein, parce que je suis passée par plein de cases dans le son et puis là je suis en train de grandir avec le documentaire sonore, le reportage, savoir comment mélanger les deux ou laisser l'un pour l'autre par moment. J'ai des idées que j'aimerais bien vendre à France Culture, à Arte Radio, mais tout ça c'est en devenir, donc c'est des choses que je dois finir d'écrire et proposer.
Merci Maëlys Détry.
Vous écoutez RCF à Bordeaux sur 88.9 et 94.6 sur le bassin d'Arcachon.
Merci Emmanuel, merci RCF pour cette rencontre avec Maëlys Détry. Le monde sonore de Maëlys Détry est à découvrir sur son blog La Rumeur du Monde à l'adresse www.maëlysdétry.com. Et on poursuit cette émission spéciale Journée mondiale de la radio proposée simultanément sur 9 radios associatives de Gironde. En mode Don Camillo et Pépone, car nous rejoignons après RCF les studios de la Clé des Ondes à Bordeaux. Et oui, après la radio chrétienne, voici la radio militante, celle qui accompagne tous les combats sociaux. On est comme ça, nous les radios associatives, on sème avec nos différences et on espère que vous aussi, copines auditrices et camarades auditeurs, vous nous aimez dans notre petit brouhaha de village gaulois radiophonique. On s'offre donc une petite leçon d'histoire des radios libres en rejoignant tout de suite Xavier Ridon, la cheville ouvrière de la Clé des Ondes qui reçoit aujourd'hui pour vous Jean-Jacques Cheval, universitaire de renom.
On est sur la Clé des Ondes et sur les autres radios associatives de Gironde, et bien pour cette journée spéciale à l'occasion de la journée mondiale des radios faite par l'UNESCO. On s'associe entre radios associatives donc, et chacun aborde le thème à sa manière, en tout cas le thème prôné par l'UNESCO. Nouveau monde, nouvelle radio, c'est le thème pour cette année. On va voir les différents anniversaires que l'on fête. Et pour en parler, on va être avec une pointure, l'un des universitaires qui fait référence sur les radios et surtout sur les radios associatives. Jean-Jacques Cheval, bonjour.
Bonjour.
Jean-Jacques, on se tutoie parce qu'on se connaît. C'est l'avantage des radios associatives. On peut souvent se tutoyer et montrer qu'on se connaît en dehors des micros. Tu es professeur des universités à Bordeaux et fondateur du GRER, le groupe de recherche et d'études de la radio. On a donc ce thème qu'a souhaité mettre en valeur l'UNESCO pour cette journée, Nouveau Monde, Nouvelle Radio. Avant cela, il nous semble qu'avant de parler de nouveautés, il nous faut parler d'histoire et d'histoire sociale et radiophonique. Qu'est-ce qui a fondamentalement émergé il y a 40 ans avec la légalisation des radios libres, des radios associatives qui étaient jusqu'alors pirates avant 81?
Alors, je pense que ça n'a pas émergé sur une année simplement, hein, il y a 40 ans. C'est le phénomène qui a émergé au milieu des années 70, donc une aspiration à prendre la parole, à casser ce monopole de l'audiovisuel qui était en place à ce moment-là. Et puis, bien, il y a eu une montée en puissance des choses qui aboutit à 1981-1982. Eh bien, effectivement, une formidable effervescence. Le fait est que le phénomène n'a pas été minuscule. C'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de radios ensuite qui ont été créées. Et c'était véritablement un phénomène d'ampleur. Et face à cela, les pouvoirs en place, François Mitterrand, a été au-delà de ce qu'il avait promis et donc a autorisé les radios pirates à devenir des radios associatives, puis des radios locales privées, a permis aussi l'évolution de ce phénomène, pas toujours dans ce qui était espéré au départ.
Alors oui, il y a une libéralisation après une libération des ondes radio en 81. Ma génération, j'ai un peu plus de 30 ans, a toujours vécu avec un spectre radiophonique assez large, assez ouvert, avec des radios associatives qui côtoient des radios privées, des radios de service public. Donc du coup, moi j'ai du mal des fois même à imaginer, malgré que je sois renseigné sur cette période, à imaginer à quoi ressemblait le monde radiophonique avant 81, à quoi ça ressemblait avant et donc, par voie de fait aussi, qu'a permis les radios pirates d'émerger.
C'était plutôt la rareté, hein, puisqu'il y avait peu de stations. Il y avait des stations publiques contrôlées par l'État et des stations périphériques, comme on dit, qui étaient des radios étrangères, réputées étrangères, et donc tolérées parce qu'émettant à la périphérie du territoire. En fait, c'était une fiction, puisque Europe 1, RTL, Radio Monte Carlo, RMC, étaient toutes contrôlées par le pouvoir aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y avait un contrôle très étroit depuis la Seconde Guerre mondiale de l'audiovisuel public, radio et télévision.
Et l'arrivée des radios pirates et des radios après libres, une fois qu'elles étaient légalisées, a fait sauter des verrous médiatiques et donc des prises de parole qui n'avaient pas lieu.
Oui, alors manifestement, hein, il y a des gens qui n'avaient pas accès à la parole, qui l'ont eu. Mais je crois qu'il ne faut pas idéaliser non plus complètement ceci, pensant que tout le monde d'un seul coup a eu droit à la prise de parole. En fait, on s'est aperçu très rapidement que ceux qui prenaient la parole, c'est ceux qui avaient un capital culturel, un capital social, qui étaient capables de s'exprimer devant un micro. C'est-à-dire que tendre un micro aux gens, ça ne veut pas dire qu'ils savent s'en servir immédiatement. Donc, ce qui a permis sur la durée quand même les radios associatives, c'est que beaucoup de gens se sont familiarisés petit à petit à ce mode d'expression, que ça a désacralisé le monde des médias et que, bon, il semblait plus facile, effectivement, de s'exprimer. on parlait de la libéralisation, ceux qui avaient d'autres idées en tête dès le départ dans cette libération de la radio, bien, ont aussi tiré leur marron du feu assez rapidement et orienté le mouvement vers autre chose que ce qui était pour les uns l'utopie d'une parole multiple et complètement libérée, pour les autres la crainte d'une subversion terrible par la parole de ces radios libres. Et ni l'un ni l'autre ne se sont produits véritablement.
Il y a, avec la libéralisation, c'est donc l'arrivée de la publicité en masse, de plus en plus, et puis c'est des radios privées qui vont racheter des fréquences à des radios libres et associatives, par exemple.
C'est phénoménal. Voilà, c'est ça, hein, c'est les réseaux, la commercialisation, c'est la récupération par les radios périphériques qui ne le sont plus puisqu'elles obtiennent des émetteurs en France, du phénomène et donc une certaine, pourrait-on dire, normalisation du phénomène. Mais il en reste quand même des beaux restes puisque quand les militants des radios libres s'exprimait dans les années 78, 79, il parlait de la possibilité d'une cinquantaine, d'une centaine de radios libres en France. Bon, on est né bien au-delà encore aujourd'hui, puisque c'est 600 ou plus radios associatives fidèles, plus ou moins à l'esprit de 1981, qui subsistent en France.
Est-ce que il y a des choses créées, imaginées ou permises par les radios associatives qui a pu infuser dans les médias dominants et qui s'en sont inspirées pour certaines choses ou pas?
Alors oui et non. Oui et certaines choses ont été dévoyées à mon avis. La libre antenne par exemple, la libre antenne qui était un des apports fantastiques du mouvement des radios libres. Bon, maintenant, on s'aperçoit que c'est des fois pour faire de la radio low cost, tout simplement, hein, ne pas payer des programmateurs et des animateurs, et puis on donne la parole, et puis on donne pas la parole à tout le monde, d'ailleurs, hein, sur les grandes stations. Et la talk radio inventée aux États-Unis, il faut s'en rappeler, est plutôt une radio réactionnaire, une radio qui donne la parole à des gens qui expriment pas forcément les meilleurs sentiments du monde. Et donc ça, c'est effectivement une récupération et peut-être un dévoiement, mais d'une autre manière. Il faut le reconnaître quand même, les radios associatives existent, elles sont présentes, elles emploient des centaines et des milliers de personnes, je pense, bénévoles, mais elles n'ont pas bouleversé quand même l'équilibre médiatique dominant. Et les radios qui dominaient en 1981, les radios publiques et les radios périphériques, elles sont toujours là et c'est elles qui font le maximum d'audience. Alors avec une ou deux nouveautés comme Skyrock ou Energy, mais on ne peut pas dire que c'est l'esprit des radios libres qui reste présente chez ces radios.
Comment on explique cela ?
Ah, c'est difficile. Après, mais c'est l'audience hein, qui fait le choix et qui décide. Est-ce que le paysage des radios associatives dans leur ensemble hein, correspond à ce qu'attendent les gens ou est-ce que je pense quand même que les radios associatives restent fidèles à ce qui était le principe de base, la logique d'expression, et qu'elles ne recherchent pas la logique d'audience. Donc, qui ne peut pas être évacué complètement, bien sûr, mais principalement, c'était de donner la parole aux gens. Donc, les radios associatives qui sont héritières de ce principe ne cherchent pas l'audience à tout prix. Est-ce que c'est ça qui les pénalise par rapport aux radios qui cherchent effectivement l'audience ? Je ne sais pas, mais il y a quand même effectivement une différence entre les radios grand public et les radios associatives sur le plan du succès d'écoute.
On rappelle donc qu'on est avec Jean-Jacques Cheval, professeur des universités à Bordeaux et fondateur du GRER, le groupe de recherche et d'études de la radio. L'UNESCO qui donc fait ce thème « Nouveau monde, nouvelle radio ». Nous souhaitons rappeler combien le médium radio s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de la société, en adaptant ses services, et notamment citant la pandémie du Covid-19, la radio qui a permis d'assurer la continuité pédagogique dans certains cas, ou de lutter contre la mésinformation, de promouvoir les gestes barrières. Il y a cette idée de parler, d'évoquer pour ce thème l'évolution de la radio. Le monde change et la radio évolue. De même, le monde change, la radio se connecte, et le monde change, la radio s'adapte et innove. Qu'est-ce que toi, cela t'inspire, alors que l'UNESCO souhaite ainsi fêter les 100 ans, je crois, ou 110 ans des débuts plutôt de la radio, et également l'occasion pour nous, radio associative, de célébrer les 40 ans des radios libres et de la libéralisation peut-être hélas aussi des radios libres et associatives. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque, l'idée qu'il puisse y avoir un nouveau monde et des nouvelles radios?
Alors, nouveau, le monde est toujours en renouvellement, hein, c'est pas nouveau. Peut-être qu'on peut regarder la permanence que tu viens de citer, la radio en temps de crise. Bien ça, c'est une permanence depuis le début. La radio, c'est le média des temps de crise. Dès qu'il y a une nouvelle crise, elle peut s'adapter. Alors c'est crise économique comme en 1929, c'est les crises sociales, c'est les crises météorologiques aussi, les catastrophes naturelles, la pandémie. Là, ça sera intéressant, effectivement. Peut-être qu'on est un peu trop là, le nez sur l'événement encore, mais ça sera intéressant de mesurer en quoi la radio a participé, a suivi cette pandémie, son rôle dans cette nouvelle crise sanitaire. Cette permanence-là, la radio, parce que c'est un média particulièrement adaptable, je pense. La flexibilité du média lui permet de s'adapter aux nouvelles situations. Alors après, renouvellement des techniques, le podcast est quelque chose dont on parle beaucoup et qui est manifestement une déclinaison du langage radiophonique, avec la nouveauté qu'on n'est plus en situation de direct, de connexion immédiate, et que l'on peut réécouter à la demande, mais des éléments qui sont construits, fabriqués avec les éléments du langage radiophonique habituel, sauf qu'il n'y a pas besoin d'être connecté et que en différé, on peut réécouter les émissions de son choix. Fondamentalement, c'est de la radio, me semble-t-il, de la communication sonore, et donc ça, c'est une déclinaison. Je serais moins catégorique sur la radio filmée qui me semble être une déclinaison un peu de l'évolution de la radio à une époque, la télévision, qui a longtemps été à ses débuts de la radio filmée, et avant de s'émanciper, quand on filme la radio aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore de la radio ou est-ce qu'on fait de la pseudo-télévision de studio? Je me demande.
Ce modèle de radio associative peut perdurer dans le temps, il n'est pas plus attaqué que ça aujourd'hui?
Oui, je pense qu'il peut perdurer, peut-être qu'il doit s'adapter aussi, peut-être que effectivement la radio doit se mélanger à cette nouvelle tendance, les réseaux sociaux. Je crois plus à une rencontre entre réseau social, radio, que radio filmée par exemple, des choses comme ça. Et aussi être attentif aux attentes des gens. Je pense que ça reste important.
Merci beaucoup Jean-Jacques Cheval. On rappelle que tu es professeur des universités à l'Université de Bordeaux et fondateur du GRER, le groupe de recherche et d'études de la radio. Merci beaucoup Jean-Jacques.
Merci à toi.
Une année radiophonique. 100 ans de la radio, 40 ans de liberté des ondes, 20 ans de la Fédération des radios associatives de Gironde. Alors rendez-vous samedi 13 février sur notre antenne pour la Journée mondiale de la radio.
Merci Xavier, merci La Clé des Ondes et merci à Jean-Jacques Cheval pour cette prouesse. Résumé 40 ans d'histoire des radios libres en moins de 15 minutes. Nous filons à présent rejoindre un territoire plein de charme mais aussi de contrastes technologiques. J'ai nommé bien sûr le Médoc, renommé dans tout l'univers pour ses vins rouges, mais aussi pour ses connexions internet toutes rikiki et ses liaisons téléphoniques aléatoires. Et c'est pourtant dans ces campagnes parsemées de zones blanches que nous allons évoquer la modernité de la radio, grâce à Aurélie, la bonne fée d'Aki FM, pile poil sur le 98 mégas de la bande FM. Bonjour Aurélie.
Bonjour Hervé.
Aurélie, tu es la digne et joyeuse représentante d'Aki FM, la radio d'ici, qui est quelque part en Médoc, mais quelque part où ?
Eh bien, nous sommes dans le charmant petit village de Saint-Germain-d'Esteuil.
Pas très loin de l'Espard, donc.
Exactement.
Je connais ma géo, c'est super fou. Et qu'est-ce que vous faites à l'Espard Médoc Saint-Germain-d'Esteuil en tant qu'Aki FM ? Quel est votre rôle ? Quelles sont vos caractéristiques ?
Eh bien alors nous, à Aki FM, en fait, on fait de l'information locale, puisque nos auditeurs aiment bien savoir ce qui se passe sur le Médoc. Et on donne aussi la parole aux très nombreux acteurs locaux, nos associations, nos commerçants, tout le monde dans le Médoc qui fait plein de choses.
Une vraie petite communauté tout là-haut dans la campagne au-dessus de Bordeaux. Et on pratique aussi, si j'ai bien compris, les nouvelles technologies et on décline l'avenir de la radio dans le Médoc.
Eh bien tout à fait, puisque moi aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir une web radio toute récente qui a été créée il y a quelques mois à Castelnau de Médoc, donc à quelques kilomètres de l'Espard.
Une web radio qui est tenue par ce qu'on appelle un cador, un tonton de la radio, à savoir un ancien passé par RTL. Je veux parler de Gilles Lanoux. Alors comment vous êtes rentré en contact ?
Eh bien en fait, Gilles Lanoux, nous l'avons rencontré puisqu'il a des fonctions municipales au sein de sa commune et il nous a contacté tout simplement mais pour nous parler de ce qui se passait sur Castelnau. Et en discutant davantage, on a appris donc qu'ils avaient cette web radio et comme c'est quelqu'un qui a vécu quand même assez exceptionnel, franchement ça a été très très intéressant d'avoir l'honneur de pouvoir l'interviewer.
Mais je dirais qu'ils sont bien Castelnau s'ils ont une web radio de pro, là au milieu des vignes et de la pinède, c'est carrément le bonheur. On découvre ça tout de suite, Gilles Lanoux donc, et cette web radio médocaine présentée par Aki FM. Merci beaucoup Aurélie.
Je t'en prie.
Aki FM, proche de vous, avec vous, ensemble. Aki FM, la radio d'ici.
En 2021, les radios fêtent les 100 ans de la radio et les 40 ans de liberté des ondes. L'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui ont fait la radio d'hier et font la radio d'aujourd'hui et de demain. Gilles Lanoux est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour Aurélie, merci de me recevoir.
Donc Gilles, la radio ça vous parle ? Vous avez travaillé à RMC ?
Oui.
RTL ?
Oui.
Maintenant vous êtes président de la toute jeune CDM Radio pour Castelnau de Médoc Radio. Alors est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ce qui vous a emmené à la radio et sur votre parcours ?
Alors la radio en général, alors ça va être relativement simple et vous allez voir que ce parcours est assez, assez particulier. En fait, étant enfant, j'étais comédien, j'étais à l'école du spectacle sur Paris, ce qui m'a permis de tourner avec pas mal d'acteurs, faire du théâtre aussi à la Comédie Française & Co. Jusqu'au moment où l'adolescence est arrivée, donc les rôles d'adultes, on ne peut pas encore, les rôles d'enfants, c'est fini, il faut faire quelque chose. Et au cours d'un tournage d'un film qui s'appelait à l'époque « Les bottes de sept lieues » de Marcel Aimé, j'ai été impressionné par le preneur de son. Je trouvais ça passionnant ce qu'il faisait, la façon dont il avait d'enregistrer, de mettre la perche, d'enlever la perche, etc. Et c'est une idée qui m'est restée en tête très longtemps. Donc, j'étais pas doué en maths, mais pour faire ce genre de métier, il fallait faire des maths. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Et puis, un jour, je suis arrivé au bac, que j'ai raté. Et mes parents désespérés ont dit « il faut faire quelque chose ». J'ai dit « oui, moi j'aimerais bien travailler dans le son en particulier ». Alors ils étaient un petit peu désespérés parce qu'ils ne connaissaient pas où à qui s'adresser, etc. Ils ont trouvé d'abord une petite entreprise qui était rue Pigalle. Donc je vous imaginez, voilà, pour faire des bandes son pour les boîtes de nuit qui étaient en haut. Et donc j'ai commencé voilà dans cette petite entreprise à faire des bandes son, etc. Et puis ma mère, toujours très inquiète de mon avenir, continuait ses démarches. Et coup de chance, parce que je crois beaucoup à la chance et aux combinaisons de la vie, coup de chance, RMC cherchait des apprentis, tout simplement, pour aider et pour apprendre le métier. Donc je suis rentré à RMC, où je suis resté, là-bas j'étais là pour 6 mois, j'y suis resté 17 ans. Tout simplement parce que j'apprenais et puis j'étais passionné par tout ce qui se passait autour de moi. Et puis un jour on m'a proposé de rester et de faire de l'info. Donc j'ai fait peut-être une dizaine au service information, une dizaine d'années. Voilà. Et puis un jour j'ai eu envie d'aller goûter l'artistique. Et là pour moi ça a été un déclenchement énorme parce que ça m'a permis de rencontrer des gens intéressants, de construire des émissions, parce que j'ai eu la chance, dans un premier temps, d'être assistant réalisateur et après réalisateur, et là, il y a tout un monde qui se crée, et ça permet de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes, de construire des émissions, de proposer aussi des émissions, parce que n'oublions pas que une radio, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est avant tout des idées, tout le monde émet des idées. Alors il y a certainement, sur 50 idées, il y en a certainement 49 qui sont nulles, et il y en a une qui aboutit et qui voit le jour. Donc voilà, et ça m'a permis de travailler avec beaucoup, beaucoup de personnes, Yves Mourousi, Christian Morin, Didier Gustin, Pierre Desproges, j'en oublie certainement beaucoup, Marie-Laure Griff, j'en oublie et je m'en excuse. Mais voilà, et puis RMC, à un moment donné, il y a Foucault aussi, beaucoup avec Foucault. Et RMC, à un moment donné, a décidé de changer un peu de cap et de devenir beaucoup plus info, et je me sentais moins bien dans cette histoire. Et donc, du coup, oui, ce que j'avais pas dit, c'est qu'entre-temps, mais ça va être long, hein. Entre-temps, en fait, j'avais fait un stage à l'INA. À l'INA, c'était à l'époque, justement, des radios locales qui arrivaient. J'avais été faire un stage là-bas pour un petit peu voir les nouvelles technologies et tout. Et leur façon de travailler, la mienne, qui était donc du privé, leur a beaucoup plu. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude, comme à Radio France, d'avoir un assistant magnéto, un gars à la console, etc. Et moi, je faisais tout. Et donc, ils m'ont proposé de rester. Je dis non, moi je suis bien à RMC, voilà. Et le jour venu, j'aurais passé un coup de fil. Je dis votre proposition de venir vous voir et de travailler avec vous, c'est toujours d'actualité. Ils m'ont dit oui, surtout que les FM arrivent. Donc j'y suis allé, voilà, je suis resté un an, pas très longtemps, parce qu'en parallèle, j'avais les locales de Radio France que je venais voir sur place, in situ, pour redynamiser un peu les équipes, pour créer pareil de nouveaux programmes, etc. Et un jour, coup de fil d'RTL me demandant si je désire venir intégrer l'équipe. Alors j'ai dit oui, avec plaisir, mais pour faire quoi? On va y réaliser les grosses têtes. J'ai dit j'arrive. Voilà, et je suis arrivé à RTL et on était deux parce que les grosses têtes c'est une grosse usine, c'est un peu le Vatican, hein, c'est un peu l'État dans l'État. Et on était deux réalisateurs sur cette émission, voilà, et on sait ce qu'elle est et on sait comment elle fonctionne, même encore alors qu'il est, même si Philippe Bouvard n'est plus dedans. Mais Laurent Ruquier est parfait. Et voilà. Et donc, jusqu'à la retraite, je suis resté donc 22 ans, un peu plus de 22 ans à RTL, mais je n'ai pas fait que Philippe Bouvard. J'ai travaillé aussi avec Patrick Sébastien, avec Laurent Boyer, avec Vincent Perrault. Et puis certainement d'autres aussi que j'oublie, j'en suis désolé, mais voilà. Voilà, donc un parcours radiophonique complet, intense, avec beaucoup de choses effectivement qui se sont passées.
Donc effectivement, de longues années, pendant toutes ces années, comment est-ce que vous avez vu évoluer en fait la radio ?
Alors elle a beaucoup évolué, déjà sur le matériel. Le matériel a beaucoup changé, avec les fameux Nagra qu'on avait en reportage, qui est des magnétos professionnels d'une solidité incroyable, parce qu'il faut voir ce qu'on leur faisait vivre, ces pauvres magnétos. Alors il y a eu la bande magnétique, très très longtemps. Moi j'ai travaillé très longtemps sur la magnétique, il fallait couper, recoller. Pour les grosses têtes, par exemple, on mettait peut-être 400 collants pour une émission, facilement, très facilement. Et puis, il y a eu l'arrivée des logiciels son qu'on connaît maintenant. Alors, il y en a des quantités, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quand même pas mal. Et là, il y a eu vraiment un bouleversement. Moi, j'ai des amis, des collègues qui, bon, étaient effectivement pour la retraite, mais quand ces logiciels-là sont arrivés, ils ont préféré décrocher parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter au nouveau système de diffusion et de montage, surtout de montage, qui leur était proposé.
Et alors donc sur les différentes radios, donc vous le dites, si je refais bien le parcours. Pourquoi ? Quand vous avez commencé, vous étiez du coup sur les moyennes ondes ?
Non, c'était c'était les grandes ondes.
C'était les grandes ondes.
Ouais,
vous avez vu arriver la FM.
Oui.
Et puis vous avez vu du coup l'explosion des radios libres.
Ouais, voilà. Moi j'ai formé beaucoup de jeunes qui sont devenus professionnels certainement, mais peut-être pas non plus, mais au moins qui ont été à l'origine des FM. Je parle d'Alouette, je parle de même d'Énergie. J'ai eu des gens qui sont été sur Énergie et plein d'autres radios locales, Radio Bocale. Il y avait beaucoup de jeunes que j'ai formés qui se sont retrouvés sur ces différentes radios. Mais en fait, à l'intérieur de la radio, on s'est pas vraiment rendu compte du changement FM. En fait, nous, on continue à travailler. Et très longtemps, que ce soit RTL ou RMC, on est resté à la fois sur les grandes ondes et à la fois en FM. Il y a eu les deux en parallèle très longtemps. Très longtemps. Et donc, bon, effectivement, qualité d'écoute, effectivement, avoir ça dans la voiture, en FM, en bonne qualité, c'est incontestable. Mais vu de l'intérieur, c'était pas si flagrant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le gros truc flagrant la grosse chose flagrante qui est arrivée de l'intérieur, c'est vraiment l'arrêt de la bande magnétique et l'arrivée des logiciels de montage son. Ça oui. Ça a vraiment été pas un choc, faut pas exagérer, mais un gros, gros changement.
Et alors, donc, aujourd'hui, vous avez pris votre retraite d'RTL.
Eh oui. Ouais, ouais.
Aujourd'hui, donc, vous êtes sur Castelnau de Médoc.
Mmh.
Et vous êtes le président d'une web radio associative.
C'est ça.
Alors, tout d'abord, pourquoi ce format ?
Alors, pourquoi le format de la web radio ? Pour moi, c'est un moyen de communication extraordinaire. Parce que c'est Internet. De nos jours, Internet, tout le monde est dessus. Ou du moins, 90% des gens sont dessus. Alors, il est vrai que beaucoup sont encore sur plutôt la FM et ont du mal à s'adapter à ce genre de phénomène, mais je pense que c'est l'avenir. Je pense que petit à petit, les gens vont s'habituer. D'ailleurs, même les voitures maintenant sont équipées de plus en plus d'Internet directement dans la voiture sans forcément passer par Bluetooth de son téléphone. Moi, j'avais pas l'habitude. Et puis, depuis que j'ai créé cette radio, effectivement, j'arrive dans la voiture, clac, clac, je mets mon téléphone, je mets l'application et hop, en Bluetooth, j'entends l'antenne sans problème. Je pense que c'est l'avenir. Et puis, il y a aussi un côté financier, parce qu'il faut des fréquences en plus pour avoir une FM, ce qui n'est pas notre cas. C'est très très limité pour les avoir, et de plus financièrement, ça coûte assez cher. Et en tant que radio associative, on n'a pas vraiment les moyens de se le permettre.
Et est-ce que vous pensez les auditeurs qui vont nous écouter ne seront pas forcément dans le Médoc et ne se rendront pas forcément compte du côté territorial. Est-ce que vous pensez que c'est un format qui peut être aussi plus adapté à son territoire ?
Oui, je le pense parce que, d'abord, si j'ai créé cette radio, c'est pour ça, c'est pour que les Médocains se reconnaissent dans cette radio. C'est-à-dire qu'en fait, mon idée de base, alors elle a beaucoup évolué, en fait, cette radio. De base, c'était juste une radio, un média supplémentaire pour Castelnau de Médoc, d'une part, et puis pour donner un programme musical aux gens de Castelnau et des alentours. Et en fait, en très très peu de temps, ça a beaucoup évolué. Et en fait, les acteurs du Médoc, ce que j'appelle moi les acteurs du Médoc, sont venus nous rejoindre d'eux-mêmes en nous faisant des demandes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chroniques qui parlent beaucoup aux Médocains. Et ça me passionne parce que bah, ils s'y retrouvent par rapport à la santé, par rapport, voilà, il y a plein de phénomènes qui rentrent, les sorties en Médoc aussi. Alors il est vrai qu'en ce moment, effectivement, on est très 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 limité. Mais il y a aussi un chef cuisinier. Il y a plein de chroniques. Il y a le vin, beaucoup. Il y a deux acteurs du vin qui viennent en alternance tous les le dimanche parler du vin. Voilà, j'ai voulu rassembler sur cette antenne les principaux acteurs qui puissent à la fois accompagner, aider et parler aux Médocains. Voilà, parce que je trouve que c'est nécessaire que dans notre Médoc, les gens puissent se reconnaître complètement.
Et alors. Du coup, toujours pareil, en prenant votre point de vue, vous qui avez vu la radio se développer, comment vous voyez l'avenir de la radio ?
Alors là, c'est une grande question. Comment je vois l'avenir ? C'est compliqué parce que techniquement, il se passe tellement de choses et ça va tellement vite. Sincèrement, je sais pas. Je pense vraiment que le côté web radio va se développer. Ça, c'est mon point de vue. Je peux me tromper. Mais l'AFM devient vraiment très très chargé maintenant. Et puis, je pense qu'il y a un véritable créneau sur les web radios, sur la web radio, sur Internet. Voilà. J'espère que ça va s'amplifier. J'espère que. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que moi, je m'aperçois avec notre petite radio, voilà, qui, franchement, je suis heureux, démarre très bien. Je m'aperçois qu'on a des auditeurs aux États-Unis, par exemple, ce qui ne serait pas possible en FM. Voilà. On a des auditeurs en Irlande. Pourquoi ? Alors, à mon avis, ce sont peut-être des anciens Médocains qui se sont installés. Ça leur permet de retrouver un petit peu le Médoc. Je sais pas trop, mais c'est assez bizarre. Et il y a des gens en France, en Auvergne, etc., qui écoutent. Parce qu'on a la possibilité justement de voir où on est écouté et quand. Et ça, c'est grâce à la web radio et c'est grâce à Internet. Sinon, en FM, ce ne serait pas possible.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Gilles, pour cette intervention très enrichissante.
C'est gentil, merci à vous.
À très bientôt.
À très bientôt, j'espère. Et encore merci.
Aki FM, votre radio locale.
Merci Aurélie, merci Aki FM. Et pour retrouver Gilles Lanoux, son équipe et la programmation de CDM Radio, une seule adresse, un petit clic sur cdmradio.fr.